France Inter.
Le comédien et sociétaire de la Comédie Française, Benjamin Laverne, est un caméléon au répertoire considérable. Sur scène et sur les écrans, il peut rendre hilar, bouleversé ou effrayé. Norvégien sentimental dans La Dame de la Mer d'Ibsen, amoureux, arriviste et menaçant dans le film De Grandes Espérances de Sylvain Desclous, chef d'orchestre atteint d'une leucémie dans la comédie dramatique En fanfare d'Emmanuel Courcol, drôlatique, Marie tête à claque. J'essaye de ne pas rigoler parce que Benjamin Laverne est en train d'essayer de régler son casque face à moi. C'est bon. J'en étais au moment où je disais que vous étiez un drôlatique Marie tête à claque dans le sens de la fête du tandem Toledano Nakache. Il a aussi incarné l'abbé Pierre dans le film de Frédéric Tellier et l'a sorti à un mauvais moment, comme notre époque en connaît tant. On a pu le voir incarner un DRH dans la série comique Un entretien de Julien Patry, dans le rôle titre de la pièce Les fourberies de Scapin, mise en scène par Denis Podalydès, ou encore chez Wes Anderson ou Nicole Garcia. Il reprend Le mariage forcé de Molière, mise en scène par Louis Arènes au théâtre du Vieux Colombier à Paris jusqu'au 2 novembre, en y jouant masqué trois personnages différents, et il y aura une tournée ensuite. Dans la série baptisée Des vivants de Jean-Xavier Delestrade, diffusée en novembre sur France 2 et visible en avant-première sur la plateforme France.tv dès le 27 octobre, je respire un peu là. Oui. Il incarnera l'une des victimes survivantes de l'attentat du Bataclan. Enfin, il présentera la 51e cérémonie des Césars, on vient de l'apprendre sur Internet, le 27 février 2026 à l'Olympia, soirée retransmise en clair sur Canal+. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Benjamin Laverne.
Bonsoir.
Vous avez, quand j'ai annoncé que vous alliez animer la cérémonie des Césars, vous avez fait une tête...
Mais que diable allait-il faire dans cette galère?
Oui, vous avez peur?
Ah ouais, je suis terrorisé, mais j'adore, c'est le grand saut, c'est le vertige, et surtout je suis ravi parce que ça va m'obliger à écrire.
Vous allez écrire les répliques?
Je serai accompagné de mon collègue François De Brouwer à l'écriture, qui joue d'ailleurs dans Le mariage forcé avec moi. Et oui, ça fait partie du pari. En tout cas, je vais peut-être être entouré, c'est déjà le cas, j'adore avoir une échéance, m'être engagé, ne plus pouvoir reculer, et donc me mettre au travail devant une feuille blanche et de savoir comment on va animer cette soirée. Avec tout un protocole, hein, mais aussi, je pense, avec, je l'espère, la subjectivité, de la fantaisie, enfin, un peu de moi.
Vous avez peur du public? C'est un public assez difficile.
Oui, et à la fois, c'est Valérie Lemercier qui disait ça en parlant des Césars. Tout le monde dit que ce public est terrible et froid et tout ça, mais en fait, pas tant que ça. C'est un peu un cliché. C'est aussi parce que c'est difficile d'être drôle, donc il est peut-être... particulièrement exigeant, mais j'ai l'impression que quand c'est drôle, Franck Dubosc, cette année, tout le monde était hilar. Il a parfaitement écrit, réalisé, interprété son sketch, et c'était super. Donc j'ai l'impression qu'en fait, quand c'est drôle, ça, le public n'est pas si dur. Ouh là là, dans quoi je...
parce que j'imagine qu'il y a un tel enjeu pour les membres du public que parfois il peut y avoir une tension,
restant
assis pendant des heures.
Le contexte est un peu catastrophique pour rigoler, parce qu'on est éclairé, les sièges sont raides, et surtout on attend de savoir si on va gagner. Bah une fois qu'on a perdu, on fait la gueule parce qu'on a perdu, donc oui.
Mais on peut pas trop montrer parce qu'on est filmé.
Exactement, ah oui, il faut bien le prendre, mais on se met à penser à autre chose. Non, bien sûr, c'est un public très, très particulier.
Alors vous n'échapperez pas à la première question de cette émission. Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
Alors, je peux dire que vous m'avez dit que c'était la première question il y a quelques secondes pour m'aider parce que sinon
parce que vous m'avez dit que vous allez encore
paniquer,
poser la question
que j'allais
là.
J'allais paniquer. Ouais, la question mystère du début où les gens sont toujours surpris.
Oui.
Ils font oh là là,
alors
je l'avais
ça
pas
alors.
Vu venir. Ce qui est un peu vexant, c'est-à-dire qu'ils n'écoutent pas votre émission.
Non mais là vous gagnez du temps.
Ouais. Alors c'est d'une banalité sans nom, mais ce sont les petites choses de la vie comme ça qui font beaucoup de joie parfois. Procure beaucoup de joie, c'était de me balader avec mon amoureuse en plein soleil dimanche dans Paris. Et voilà, vous avez pu nous apercevoir du côté du Luxembourg. Non, je blague. Non, mais en tout cas, dans le 5e arrondissement et le 6e, il faisait un temps de maboule quand même.
Vous étiez dans deux arrondissements en même temps, ça c'est
ouais,
fort.
Ouais, grand écart. Je suis très très souple. Je suis très très souple. Et c'était, c'était très simple, mais c'était sublime. En fait, il y avait une lumière... incroyable, et de traverser Paris à vélo à deux avec et de re-réaliser pour la centième fois que cette ville est complètement démente, quoi. C'est très 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 beau Paris. Voilà ce qui m'enthousiasmait, c'était hier.
Alors, si on remonte à un peu plus loin, je crois que vous avez une famille aimante, que vous dites que vous avez la chance d'avoir vous avez eu la chance d'avoir été aimé par une famille.
Oui,
une famille aimante. Quelconque, comme ça, rencontrée au hasard dans la rue.
Oui, une famille m'a aimé, sur un malentendu, c'était super.
Et des professeurs aussi qui vous ont poussé à y croire, et vous citez Olivier Py par exemple, qui vous a mis en scène d'ailleurs dans Roméo et Juliette,
oui.
Et qui vous a dit que vous étiez un grand artiste et qu'il fallait que vous le sachiez. Est-ce que vous doutez beaucoup, malgré tout cet amour et ces encouragements?
Oui, bien sûr, je doute, mais ça rend très fort quand même d'avoir parfois des rendez-vous comme ça où... Alors, je dis toujours qu'il faut douter des grands compliments comme des grandes attaques. Il faut jamais vraiment croire les superlatifs et jamais comme ça. Au moins, on plonge pas dans l'un ou dans l'autre, et toujours se protéger quand on se fait. Quand on vous fait des reproches ou des attaques quelconques. Mais oui, ça m'empêche pas du tout de douter. C'est ce qui me fait avancer, travailler, et c'est essentiel. Je pense que c'est assez banal de le dire, mais sans le doute, on peut pas avancer. Et donc, je suis toujours étonné de quand on me fait des retours sur mon interprétation dans un film, et que voilà, on me dit que je suis formidable. J'ai toujours un peu de mal à y croire. Ça me fait très très plaisir, donc je prends, mais je continue toujours d'en douter. Donc je pense que c'est le juste milieu, le bon équilibre, et j'essaye de rester dans cet état d'esprit pour continuer à travailler et à chercher, parce que c'est comme une quête aussi, je pense, d'être acteur. C'est une quête permanente.
Vous cherchez quoi ?
L'amour. Non, je sais pas. C'est la première chose qui est venue. C'est mon inconscient. Non, je l'ai.
Une famille aimante.
Je l'ai. Ouais, je l'ai. J'ai beaucoup de chance. Non, l'amour rend très très fort et donne des ailes et voilà. Qu'est-ce que c'est banal. C'est très banal de dire ça, de dire que j'ai aimé le soleil. J'ai aimé le soleil hier à Paris et que j'aime l'amour.
Et que l'amour donne des ailes.
Non, mais parce que je parle de l'amour de ma famille peut-être, mais des professeurs, de voir dans le regard de vos professeurs que vous pouvez y arriver et que vous êtes doué. En fait, ça permet de viser encore plus haut. Ce qui peut être un piège parfois, quand on vous dit que vous avez été super sur cette réplique au théâtre, par exemple, quand vous sortez de scène, on vous dit « Ah, j'ai adoré quand t'as fait ça », ça peut être un piège, parce que du coup, on va vouloir en rajouter une couche, alors que c'était parfait, fallait surtout pas y toucher, et on va, pour faire plaisir au metteur en scène, on va dire « Regarde, comme je peux être encore meilleur », et ça devient trop. Donc c'est un piège aussi, les compliments, c'est vraiment un juste équilibre.
La 20e heure, Eva Bester, sur France Inter.
Oh, le beau mariage! Oh, le beau mariage!
Oui, je te soutiendrai par vive raison que tu es un ignorant, ignorantissime, ignorantifiant, ignorantifié.
En l'épousant, moi je crains d'être cocu!
Cocu!
Oui, cocu, je serai cocu, oui ou non?
Benjamin Laverne, en ce moment au Théâtre du Vieux Colombier à Paris, vous reprenez la farce de Molière, Le mariage forcé, mise en scène par Louis Arène, ancien pensionnaire de la Comédie française, aujourd'hui à la tête de la compagnie Moonstrom Théâtre. Je cite le casting quand même par politesse,
oui.
Puisqu'il est court en plus, sinon je l'aurais pas cité en fait. Sylvia Berger, Julie Sicard, Gaëlle Camilindi et François De Brouwer, vous en avez parlé tout à l'heure. La pièce a été écrite en 2022. Comment est-ce que vous faites pour garder les textes en mémoire, puisque il arrive souvent que vous en jouiez des différents simultanément?
Ça fascine beaucoup, alors que le cerveau est très bien fait. Hein. Vous pouvez connaître plusieurs langues, je fais du tennis, du ping-pong. En fait, tout est bien rangé. Donc, quand un texte est classé, alors il y a des Lucchini qui peuvent tout vous ressortir, et ils ont la mémoire fraîche sur tout. On a l'impression que c'est une espèce de grimoire où la mémoire est fraîche sur tout. Tout le disque dur. Moi, je connais bien le texte que je joue. Mais celui que j'ai joué il y a un an et que je ressors, eh ben, il n'est pas très loin. Il faut lui remettre un petit coup de polish.
Alors là, ça fait 3 ans, comment faites-vous ?
Ouais, et ben, en fait, c'est miraculeux. Et je pense qu'en fait, on s'en étonne tout le temps. C'est fou comme il faut le relire 2 fois. Et en fait, ça revient. Et ça, c'est un émerveillement continu. De constater qu'en fait, c'était là. Et que, comme quand on remet des skis après 10 ans, quand on a la chance de faire du ski, eh ben,
on se dit, si on
je sais faire,
pas,
je sais
bizarre.
Faire. Ah oui, c'est bizarre, les gens qui font pas de ski, c'est vraiment
nul. Et qui en remettent, à bout de 10 ans.
Non, mais en tout cas, ça, c'est fou, la mémoire, comment c'est fait. Et le Le rapport au corps aide énormément. C'est-à-dire de refaire des gestes, ça fait revenir le texte aussi.
Ah oui ?
Dans l'espace, ouais. Et comme c'est très graphique, la mise en scène de Louis Arène, du mariage forcé, c'est vraiment, ce sont des lignes comme ça. Le plateau est un rectangle et on fait des traversées, des diagonales, des largeurs, des longueurs. Et ben, le texte, il est ancré dans l'espace. Et on sait que dans ce virage, c'est ce mot, ça revient. Et donc ça aide énormément. Et quand on est perturbé par un rire trop fort ou quelqu'un dont le téléphone sonne, on a plein de sécurité. C'est-à-dire qu'on peut se dire « Merde, il est en train de me niquer la scène !» Et hop, et le texte continue. C'est-à-dire qu'on peut... et ça, c'est génial. C'est génial, mais c'est vraiment pour tous, hein, pour tous les acteurs. Le rapport à la mémoire est souvent le même. Pas forcément pour apprendre son texte, mais une fois qu'il est acquis, voilà, les sécurités sont les mêmes.
Alors justement, j'aimerais bien vous interroger sur ce sujet, puisque ça nous concerne tous. Alors, nous ne sommes pas comédiens, mais on dit toujours qu'il faut entretenir la mémoire. Là, ce que vous me dites, ça me fait penser au palais de la mémoire, qui est une technique ancienne, vous savez, où il paraît que je crois que c'était les Romains, imaginaient une maison et associaient à chaque pièce de la maison la chose qu'ils voulaient retenir. À la fin, ils arrivaient à retenir grâce à l'architecture d'une maison.
Oui.
Donc ça rejoint ce que vous dites. Et donc la question est la suivante, puisque nous qui ne sommes pas comédiens, si on veut apprendre un poème par cœur, que nous conseillez-vous de faire ? Comment est-ce que vous apprenez par cœur ?
C'est très basique et c'est un peu ingrat. Souvent, en fait, le public vous félicite sur « Oh là là, tout ce texte !» ou « Quelle énergie !» C'est des grandes phrases qu'on vous dit en sortant de scène. « Dis donc, bravo, quelle énergie !» Vous avez l'air de vous amuser. Ça, c'est très vexant.
Pourquoi c'est vexant ?
Parce qu'on se dit « Mais oui, on s'amuse. Mais vous ? Et vous ?» Nous, on n'a qu'une envie, c'est de savoir si les gens ont aimé. Et donc, pardon, je reviens à votre question. La mémoire, c'est « Oh là là, tout ce texte, qu'est-ce que c'est impressionnant !» C'est bête et méchant d'apprendre son texte, c'est ingrat, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Et tout le monde a sa petite méthode de rabâcher, de répéter, d'apprendre dans un restaurant avec du bruit, dans un parc avec beaucoup de musique, dans un silence allongé sur son lit. En fait, c'est pas très intéressant. Moi, je conseille toujours aux jeunes comédiens ou à ceux qui me posent la question de prendre une phrase, de la dire en boucle, en boucle, en boucle, et puis de rajouter une deuxième phrase, et puis de faire la première, la deuxième, la première, la deuxième, puis une troisième phrase pour 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors la première, à la fin, on la connaît bien, 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 parce que c'est celle qu'on répète le plus.
À voix haute ou dans sa tête ?
Ouais, ou à voix haute quand même, ou à voix basse. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est la question de la mémoire sur plusieurs jours. C'est-à-dire que vous avez un casting le soir, il ne faut surtout pas apprendre votre texte le matin. Parce qu'à midi, vous allez croire que vous le connaissez par cœur. Et puis à 16h, c'est la bascule, et ça s'éteint, ça s'efface. Et donc c'est comme des couches de peinture, il faut mettre 3 couches pour que ça marche. Donc moi je conseille 2 nuits, il faut au moins 2 nuits pour être à l'aise avec un texte. En tout cas, c'est-à-dire encaisser le stress de le présenter devant quelqu'un. Parce que ça, la peur, c'est terrible pour le texte, et ça à mon âge, 41 ans, ou même à 50 ans, on peut totalement se faire avoir, en disant ça y est, je le connais, et en fait et pour les tournages, c'est pareil, c'est-à-dire ne pas se faire avoir à l'apprendre la veille.
Alors en parlant de temporalité, Le mariage forcé, c'est une pièce que Molière a écrite en 15 jours, il s'est inspiré de Rabelais.
Ah oui.
Ah, je vous l'apprends ?
Ah non, mais moi, je
non,
pas du tout travaillé.
Bon, d'accord, alors, je vais vous parler de ce que vous connaissez. Sganarelle.
Non, mais apprenez-moi des choses, j'adore, avec vos auditeurs.
Est-ce que vous saviez que si on additionnait tous les chiffres qui se trouvent sur une roulette, ça faisait 666 ?
Non.
Bah voilà. Sganarelle.
Le diable se loge dans les détails.
Oui. Sganarelle veut épouser la jeune Dorimène et demande son avis à son ami Géronimo, qui le décourage parce qu'il a, pardon, mais 52 ou 53 ans. Là, vous venez de dire que vous avez 41 ans comme si vous étiez un vieillard. C'est scandaleux quand même. Alors oui, c'était notre époque, mais
là, bon. Il a 53 ans, Sganarelle, mais il veut épouser une toute jeune fille. Et peut-être qu'à 53 ans, à l'époque, c'est l'équivalent des 85 ans d'aujourd'hui pour l'époque de... les contemporains de Molière. Donc, et puis il est peut-être un peu fatigué, ce Sganarelle. Il se dit très en forme, qu'il a la jeunesse, la fougue, la vigueur d'un homme de 30 ans. Et il dit pour 53 ans, regardez comme je suis robuste et très en forme sexuellement aussi. Et non, il est vraiment visqueux, il est poussiéreux, il est dégueu, ce Sganarelle, mais il est fantastique, il est formidable. Il est interprété par Julie Sicard qui tous les soirs nous fait un show, enfin, elle est monumentale, quoi. Moi, je suis complètement fan de Julie dans ce rôle. Et en effet, il veut épouser cette jeune fille, Dorimène, qui est une femme, pas vraiment de son temps, peut-être, en tout cas.
Non, justement, c'est ça qui est intéressant. Le mariage forcé, ce n'est pas celui auquel on pourrait penser, pour une fois.
Et non, Voilà, Molière s'amuse avec, dans l'œuvre de Molière, les jeunes femmes sont mariées de force, et Molière s'en offusque, s'en scandalise, et là, il se fait un malin plaisir à mettre ce vieux barbon, ce vieil avare, qui est libidineux, et c'est lui qui... Alors, ce mari, il donne sa promesse à la famille de Dorimène, sauf qu'il réalise qu'elle est libre, très dépensière, qu'elle est, qu'elle a une grande liberté. Elle lui fait cette confession. J'aime le jeu, j'aime me balader, je suis dépensière, et puis même sûrement libre aussi amoureusement. Et donc, il flippe. Il se dit oh là là, dans quoi je me suis engagé? Et donc c'est le début de son cauchemar. Il va aller consulter des philosophes, des bohémiennes, et on est dans le cauchemar absolu de Sganarelle. Et donc il y a une jouissance du spectateur à voir la cruauté inversée,
parce que c'est qui est très forte tout de même.
Ouais.
Il y a un moment où on plaint Sganarelle.
Exact. Moi c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire que jusqu'où va la vengeance? Jusqu'où va la vengeance des metteurs en scène qui s'amusent à faire tourner Sganarelle comme une souris dans une roue. Le décor a été imaginé par Eric Ruff, c'est comme une boîte mentale, c'est une boîte blanche en bois avec des portes, des fenêtres, et c'est anxiogène, c'est sûr, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre, c'est presque lynchien, il y a quelque chose d'un univers très 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 fort qui appartient à Louis Arène et au Munchtrum Théâtre. Le fait qu'on soit masqué aussi, on a l'impression que c'est un peu...
Alors tout le monde est chauve.
Tout le monde est chauve.
Voilà, je le révèle.
Voilà.
Tout le monde est chauve, et alors là je vous laisse nous dire pourquoi.
Il n'y a pas de propétia à l'époque de Molière, il n'y avait pas de finastéride, ce sont des termes très précis, médicaux, pour la repousse des cheveux. Tous ceux qui ont des problèmes de cheveux connaissent, c'est un peu de la private joke. Non, mais ces masques, ils donnent une uniformité. Je continue de poser la question à Louis, donc, qui est un ami avant d'être mon metteur en scène, de dire mais qu'est-ce que c'est que ces masques? Pourquoi tu as une obsession de ces masques? Qu'est-ce qu'ils révèlent? Qu'est-ce qu'ils racontent? Parce que ça nous dépasse un peu, il y a quelque chose en effet de futuriste ou d'intemporel, mais qui c'est une famille, une espèce de famille. Alors moi j'ai une espèce de conehead, les crânes changent mais ils sont chauves. Et dans toutes ces mises en scène, c'est très souvent le cas. Je pense que ça enlève tout le milieu, c'est pour parler à tous les milieux sociaux, à tous les âges, c'est pour enlever toute caractérisation toute définition du poil, quoi. Je sais pas, la pilosité nous raconte aussi. Et ça, je trouve que c'est un univers passionnant. Et alors, le masque, bon, évidemment, c'est pour raconter nos intériorités.
C'est plus difficile de jouer avec un masque, de respirer, de...
Oui, et à la fois, ça nous... Comme le masque de Jim Carrey, hein, ça nous libère, ça nous propulse dans des états, ça nous met dans un état. Lui, il nous fait beaucoup travailler sur l'effroi.
Comment ?
Grands yeux, il dit il faut habiter le masque, parce que le masque il est très fort.
Ah oui, vraiment comme Jim Carrey.
Et si on n'ouvre pas les yeux, le masque il meurt. Et donc, évidemment c'est inspiré de la Commedia dell'arte, mais il veut pas, il a un code de jeu avec Lionel Lingelser qui est son co-metteur en scène et qui est vraiment son complice. Ils nous disent comment jouer avec ce masque. Et si on est trop dans le burlesque, c'est-à-dire si on fait trop des personnages de masque comme ça, grotesques, trop cartoon, eh ben c'est plus vraiment, c'est hybride. C'est une espèce, pas androgyne, mais c'est hybride. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait du réalisme et du mystérieux, du monstrueux, et ça donne quelque chose de très, très pas traumatisant, mais très troublant pour le public.
Oh, Seigneur Sganarelle, tout est renversé aujourd'hui. Le monde est tombé dans une corruption générale. Une licence épouvantable règne partout. Et les magistrats qui sont établis pour maintenir l'ordre dans cet état devraient rougir de honte en souffrant un scandale aussi intolérable que celui dont je veux parler.
Mais quoi donc ?
N'est-ce pas une chose horrible ? Une chose qui crie vengeance au ciel que d'endurer qu'on dise publiquement la forme d'un chapeau.
Comment ?
Je soutiens qu'il faut dire la figure d'un chapeau, et non pas la forme, d'autant qu'il y a cette différence entre la forme et la figure, que la forme est la disposition extérieure des corps qui sont animés, et la figure, la disposition extérieure des corps qui sont inanimés. Et puisque le chapeau est un corps inanimé... il faut dire la figure d'un chapeau, et non pas la forme.
Alors, comme souvent, Molière se moque des savants et vous incarnez trois rôles.
Dans le théâtre à la radio, parce qu'on se demande bien ce qui s'est passé.
C'est vrai.
Il y a eu un silence.
Oui.
Il y a eu un silence, un bruit de.
Oui.
et le rire du public, je ne vous le dirai pas, je vous propose de venir un vieux colombier.
Bravo, quelle réclame. Vous incarnez dans vos trois rôles le philosophe Pancras, c'est celui qu'on vient d'entendre. Vous êtes un philosophe qui n'écoute rien et vous êtes aussi à un moment une bohémienne.
Oui, c'est beau le théâtre.
C'est très beau.
Ouais, bah, je suis très heureux de ça.
Et est-ce que vous croyez à la possibilité de prédire le futur ?
Alors là, vous m'avez perdu. Attendez, faut que je reconnecte.
Bah, les bohémiennes, en fait, il va les consulter pour savoir s'il va être cocu.
Bien sûr, le passé, le présent, le futur sont sur une même ligne. La clairvoyance.
Charles Dickens.
Oui, j'y crois un peu.
Vous croyez à Charles Dickens ?
J'aime bien me dire que j'aime bien faire jouer à y croire. Parce que ça m'emmène dans des endroits, des petites questions métaphysiques qui font un peu peur, mais... je serais curieux d'aller voir une voyante un jour. Les bohémiennes, là, c'est pareil, elles veulent lui piquer son pognon, donc ce sont des bohémiennes qui ont le sens du commerce.
Mais elles ont aussi un sens de la prédiction.
Oui.
Au début, on pense qu'elles l'arnaquent seulement, qu'elles le dépouillent, et puis finalement...
Bien sûr, elles disent cocu, tu seras cocu.
C'est les seules qui répondent directement.
Oui, elles sont très cash, c'est vrai. Elles disent les choses, elles essayent de lui rendre service, ou en tout cas de lui faire gagner du temps.
Pas de l'argent, oui, mais du temps, oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de prises de liberté, puisqu'il y a des gros mots ? Le début, il y a toutes les répliques les plus connues de Molière, dites par Julie Sicard, qui dit « Ah non, c'est pas ça », avant de commencer la pièce. Il y a des téléphones, des oreillettes.
Oui, dans Sidi Dascali, Molière ne précise pas toujours des idées de mise en scène. Loin de là, c'est plutôt la définition des sentiments des personnages, parfois. Alors là, en l'occurrence, Louis Arène, le Munchtrum Théâtre, il crée des images, mais qui vont vraiment dans le sens, je trouve, de la pièce. Et c'est ça qui est hyper réussi dans ce spectacle, c'est que je trouve que c'est pas du tout Molière dénaturé, où Molière serait un canevas dont on se sert pour faire de la gaudriole, ou en tout cas pour plaquer ses idées de mise en scène. Là, c'est totalement au service, oui, de la monstruosité, la cruauté de ces personnages qui sont... c'est un peu affreux, sale et méchant. Parfois, il n'y en a pas un peut-être pour rattraper l'autre, parce que même cette jeune fille, oui, elle trompe totalement Sganarell, et à la fois, on jubile de voir ce vieux se faire maltraiter, puis à la fois, on se dit qu'elle est aussi très, très violente dans cette vengeance. Jusqu'où doit aller la vengeance ? Et donc, le public est sans cesse entre le rire et la gêne et l'effroi. Et en tout cas, les images qui sont créées, le rêve, le fantasme des metteurs en scène sur cette pièce, j'ai l'impression, révèle totalement la vérité de ce qu'elle est. Et c'est pas du tout une trahison. J'ai l'impression que le public autour de Molière, il y aura toujours des gens qui vous diront « Molière se retourne dans sa tombe » ou au contraire « Ah, je suis sûr que Molière vous prendrait dans ses bras et serait très 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 heureux ». Le public a toujours un avis sur ce que pourrait penser ce pauvre Molière qui n'a plus rien à faire. Ou moi, je me plaît à dire que là, il serait très heureux. J'ai l'impression que vraiment, ils ont capté une chose de la cruauté, de la violence et de la modernité de cette pièce, puisqu'elle est éminemment féministe avant l'heure, puisqu'on marie un petit vieux de force. Et oui, à l'inverse, elle nous fait poser cette question, jusqu'où aller dans la vengeance, jusqu'où aller dans l'inversement, est-ce qu'il faut martyriser les hommes qui nous ont martyrisés, jusqu'où les faire souffrir pour leur faire comprendre leur prédation, c'est une question, et j'aime que les gens soient pas à l'aise avec ça, et se posent la question à la fin.
C'est une scène, c'est une pièce aussi qui se joue sous masque, comme on l'a dit tout à l'heure, et qui est très très physique, et je pense notamment à une magnifique scène au ralenti, c'est-à-dire que...
Oui,
alors
on n'est pas James Thierry. Hein.
Non, bah, oui, mais si, c'est quand même très impressionnant. Comment est-ce qu'on se prépare physiquement aux Français ? Est-ce que vous faites du sport ?
C'est un peu un vide, pas juridique, mais c'est-à-dire que ça appartient... On n'a pas la rigueur qu'ont les anglo-saxons. Je parle des anglo-saxons parce que c'est une culture avec laquelle on a grandi, qu'on va voir...
Qui chante, qui danse.
Voilà. Et surtout, alors oui, au conservatoire, il y a quand même des cours d'expression scénique, de conscience de son corps, avec Caroline Marcadet au conservatoire, ça a été très important. Et la danse nous accompagne, le rapport. Mais on a quand même une préparation qui est très personnel. C'est-à-dire, les Japonais, avant de faire du théâtre no, ils se réunissent, j'ai cru comprendre, quand je suis allé au Japon, 2 heures avant, pour faire un échauffement tous en commun, et se mettre au diapason, se sentir, et pousser avoir le corps chaud et totalement disponible au jeu. Nous, chacun arrive à son rythme, chacun à sa routine.
Il n'y a pas de cours en commun.
Alors, des metteurs en scène imposent ça, parfois. J'ai vu quand... Ivo Vanhove, Electro-Rest, il y avait beaucoup de corps dans de la boue, il y avait une chorégraphe qui venait faire un échauffement avec les comédiennes, du chœur. Mais en fait, même à la Comédie Française, alors, bon, c'est pas du tout pour critiquer, mais on n'a pas de kiné perso, on n'a pas de coach de sport. Chacun doit se prendre en charge et doit se responsabiliser dans son rapport au corps. Certains arrivent, n'échauffent pas leur voix, n'échauffent pas leur corps, parce qu'ils estiment que... C'est une anecdote géniale, Christian Eck, dans le fil à la patte, la mise en scène Jérôme Deschamps, il dévale un escalier sur le dos. C'était il y a quelques années. Il m'a dit, la seule fois où je me suis échauffé, je me suis fait mal. Et ça m'a fait quand même beaucoup rigoler. Donc non, il n'y a pas de règle, mais là c'est très physique et moi j'aime bien m'étirer et faire quelques squats, oui.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
J'ai fait de grands serments de ne me mêler plus du monde.
Ce n'est pas la bande-annonce de la comédie musicale Stomp, mais celle des Fourberies. Bah, je sais pas, moi je voyais juste la passion. Pub quand j'étais petite au cinéma.
Il tapait sur les bassines, sur
oui,
le grand mur.
Oui, il tapait partout.
Partout, ça c'est sûr.
Vous tapez partout, Benjamin Laverne ?
J'ai tapé partout, ouais,
c'est
j'aime
vrai
bien. Mais en même temps, les mecs ils font... Ah, tu fais de la batterie ?
Waouh, mais vous avez le rythme dans la peau.
Le rythme dans la peau. Non, j'adore Stomp.
Bon, en tout cas, c'était pas Stomp, c'était vous dans Les Fourberies de Scapin,
ouais.
Mise en scène par Denis Podalydès,
oui.
Qui dit que vous êtes stendhalien.
Ah merde. Je peux pas rebondir.
Bah, rebondissez pas. Hein.
J'ai si peu lu Stendhal. J'ai dû le relire Le Rouge et le Noir. C'est bien Stendhal.
Et le rose et le vert, vous l'avez
voilà,
lu ?
Voilà, le rose et le vert, non, je ne l'ai pas encore lu. Stendhalien, non, mais j'aimerais bien que vous l'interrogiez pour en savoir plus. Mais
bah,
je peux pas, moi, je ne peux pas rebondir là-dessus.
Alors, je vous emmène en Chine.
On l'appelle Denis.
On appelle un ami. Je vous emmène en Chine.
Ah oui ?
Est-ce que vous pouvez nous raconter les Fourberies de Scapin en Chine ?
Ah, c'était extraordinaire.
Parce que vous êtes pratiquement tout nu au début de la pièce, mais là-bas,
oui.
C'était pas possible.
Ah, bah, c'est interdit. Non, on a dû me fabriquer un caleçon. Un caleçon dans l'esprit des costumes de Christian Lacroix. Donc un peu patiné, parce que je sors de mon trou, de ma trappe, dans ce port de Naples. Oui, une grande pudeur. Ils rigolent pas du tout avec ça, c'était une des conditions. S'il n'y avait pas de caleçon, on venait pas. Hein. Le public chinois, c'était étonnant parce qu'ils adorent Molière, ils ont l'air de le connaître très bien. On m'avait dit, le public chinois est rustique et rieur.
Mais il n'applaudit pas.
Et en fait, il y a l'histoire des surtitres qu'ils doivent lire. Et c'est marrant, les surtitres qui sont évidemment en mandarin pour que le public puisse suivre la pièce. Et nous, on jouait en français. Quand je disais qu'on allait jouer les Fourberies de Scapin en Chine, on me disait, mais vous allez jouer en quelle langue ? Je dis, en français, on n'a pas le temps. On est quand même multitâche, mais on n'a pas le temps de l'apprendre en chinois.
C'est deux jours avant.
Oui, deux jours avant, exactement. Et bien, bizarrement, le chinois, ça marche. Deux jours avant, on ne l'oublie pas. Non. Non, mais je me suis amusé à apprendre quelques phrases. Je me suis amusé à apprendre quelques phrases et à la sortir avec les toniques,
Vous en souvenez ?
Les intonations. Ni hai wo ma, wo ye ai ni.
J'ai compris bonjour et après je sais pas.
Ni hai wo ma, c'est est-ce que tu m'aimes ? Moi aussi je t'aime.
Ah oui, vous laissez même pas la personne répondre.
Non, c'est moi qui faisais
les
questions-réponses.
Ah oui, d'accord.
Mais il y avait une grande. Ah, ils étaient très très contents, mais comme quand d'ailleurs les étrangers parlent français en France, on adore, on rigole beaucoup. Ça a été un succès parce que les Chinois aiment beaucoup le théâtre, adorent la langue de Molière et captent vraiment son humour. Et ça, c'était fou de voir que l'humour de Molière marchait là-bas.
Il y a une scène dans cette pièce dans laquelle un des personnages est dans un sac et vous lui tapez dessus.
Il paraît, oui.
Et vous dites...
La scène du sac.
Oui, la scène du sac, c'est Géronte qui est dans le sac. Et vous dites que vous avez eu la sensation de perdre des points de vie. Est-ce que vous avez peur de vous abîmer sur scène ?
Ben en fait, j'ai peur de m'abîmer quand je vois dans le regard de mes proches qu'ils ont peur pour moi. C'est-à-dire que quand je vois que, dis donc, tu travailles trop, t'as maigri, fais attention à toi. Donc cool, c'est des petites prises de conscience, mais... Je reste persuadé que c'est un métier qui n'est pas comme un autre, qui n'est pas un métier alimentaire, quand on a la chance de le pratiquer, et que c'est une vocation, et que c'est une vocation qui vous pousse à vous donner, à donner un peu de son âme. Et quand je parle de point de vie, c'est juste que ce rôle de Scapin, je l'ai peut-être déjà dit en interview, mais pousse l'acteur dans ses retranchements, et que s'il n'y a pas un petit vertige de, non pas de se mettre en danger, mais de s'engager un peu au-delà du raisonnable, eh ben c'est là que ça devient vertigineux pour le public et pour l'acteur. Et que oui, il y a le côté, non pas maso du tout, je pense qu'il ne faut jamais se faire mal ou être fier de s'être fait mal ou de se dire « regarde, jusqu'où je me donne ». Et par exemple, moi, perdre 30 kilos pour un rôle, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de m'abîmer, mais... Et se peut se poser la question aussi de jusqu'où on utilise sa voix, jusqu'où on se met à hurler en scène, est-ce qu'il faut se casser la voix ou pas ? Non, je crois pas. Il faut maîtriser sa technique et à la fois donner un petit supplément d'âme qui fait que le théâtre devient quelque chose d'absolu, de nécessaire et de ouais, je sais pas, vertigineux pour les gens.
Percer jusqu'au fond du cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle. Misérable vengeur d'une juste querelle et malheureux objet d'une injuste rigueur, je demeure immobile et mon âme abattue cède au coup qui me tue. Si près de voir mon feu récompensé, ô Dieu, l'étrange peine, en cet affront, mon père est l'offensé. Et l'offenseur, le père de Chimène.
Je crois que dans les projets concernant la comédie française, Benjamin Laverne, il y a Le Cid par Denis Podalydès. Ce sera du 28 mars au 17 mai. Et là, on entendait Gérard Philippe au Festival d'Avignon en 51. Est-ce que vous êtes déjà en répétition ?
Non. Non. Dans ma tête, je suis en répétition de la répétition. Je me prépare à la répétition. Je me dis qu'il faut que j'apprenne mon texte, qu'il est plus que temps, justement pour ne pas l'apprendre deux jours avant.
Et la vie parisienne d'Offenbach de Valérie Le Sort aussi.
Oui, c'est les deux très belles créations que j'ai cette année. Je suis très heureux d'avoir ces deux projets. Création du Cid, c'est fin mars. La première est le 26 mars au théâtre de la Porte Saint-Martin. Et La vie parisienne, je crois, c'est le 12 juin au Châtelet. C'est une coproduction. Bah oui, c'est génial quand on a des rôles comme ça aussi enthousiasmants. On a l'impression que c'est un rendez-vous comme un rêve. Parce que alors, le Cid, c'est pas tant une pièce que je rêvais de jouer absolument. Mais en la relisant, je vois qu'il y a quelque chose qui touche à l'absolu de l'acteur. Parce que c'est trop grand. C'est sublime, la langue, mais c'est aussi des sentiments qui sont trop et qu'on ne peut faire qu'au théâtre. Sauf quand le cinéma est un cinéma qui est moins naturaliste et qui est plus grand que nature, quoi, plus grand que tout. Mais le Cid, que ce soit avec Denis, donc il y a la continuité du travail après Scapin, de bien se connaître. Et c'est mythique aussi, que ce soit, moi je l'ai découvert peut-être même avec Les Inconnus, qui faisaient un pastiche, nous partîmes. 500, et je ne sais même plus, mais c'est comme ça que je crois que je l'ai découvert, et puis je l'ai lu certainement à Florent, mais là, oui, c'est
Florent,
le Cid...
Florent, c'est pas un type, c'est le cours
François
Florent.
Florent, le cours Florent.
Oui.
Le Cid à la Comédie Française, on a l'impression que, oui, on pense à Gérard Philippe, qui l'a joué, et Francis Huster aussi, qui l'a mis en scène et qui l'a joué. Je me rappelle d'un reportage où Léon Zitrone interview Francis Huster. C'est une vidéo de Lina sur laquelle je suis tombé. Et on sent la fierté de l'incarner. Et il fait un extrait des stances qu'on a entendues, là, les fameuses stances. Si près de voir mon feu récompensé, ô Dieu, l'étrange peine. On l'avait fait en lecture avec Marina Hans et Denis pour les théâtres à la table pendant le Covid, qui étaient des lectures filmées. Quand je dis que c'est un texte immense, c'est aussi parce que c'est des grands, grands, grands sentiments. Et c'est de la tragique comédie. C'est-à-dire que c'est tellement trop cette histoire de dilemme cornélien et de « je dois tuer le père de celle que j'aime ». C'est tellement chevaleresque qu'il ne faut surtout pas le traiter de manière trop réaliste. Il faut que ça soit, comme le dit Denis, un grand tableau baroque et d'assumer que c'est trop. Et à la fois, il faut y aller à fond. Il faut être premier degré à fond, et ça voilà, en fait c'est ce qui m'excite le plus, c'est de... Et avec là, ça sera donc avec Suliane Brahim qui joue Chimène, Jennifer Decker, Didier Sandre et tous les autres, et c'est des cadeaux, c'est des grands grands cadeaux de jouer ça avec la troupe de la Comédie Française.
Et pour Offenbach, est-ce que vous allez chanter aussi comme dans, vous l'aviez fait pour l'opéra de Katsu?
Ah bah oui, on va tous chanter, danser. Alors là, on parlait de technique et d'exigence. Je pense qu'on va avoir une sacrée formation et on va être obligé de bien s'échauffer. Et d'ailleurs, on s'y met dès maintenant. On a des ateliers de chant là pour déchiffrer. Et mes parents m'emmenaient voir Offenbach à l'opéra de Tours, parce que moi j'habitais Poitiers. On faisait une heure de route et j'ai beaucoup été d'abord à l'opéra pour voir de l'opérette. Et je riais, mais voilà, je riais beaucoup. Et Valérie Le Sort, avec son univers, va nous emmener avec Offenbach.
Et j'adore chanter. Le Bourgeois Gentilhomme, c'était formidable.
Oui, Le Bourgeois Gentilhomme, Valérie Le Sort et Christian Eck.
Passer ce morceau magnifique de Serge Gainsbourg, L'Hôtel Particulier, Benjamin Laverne, pour célébrer le fait que vous ayez joué dans la pièce Les Serges, Gainsbourg, point barre. Mais nous n'avons pas le temps de commenter,
oui.
Car Billy Joel veut dire son mot.
She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies, and she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Vous la connaissez cette chanson ?
Bah, évidemment, dit-elle en mentant.
Alors, moi je la connaissais, mais je ne l'avais pas écoutée, je pense, depuis 15 ans. Et cet été, je suis retombé dedans. Et
je ne la connaissais pas.
Et ça me donne envie de pleurer, de vivre.
Vous dites
ça
le titre envie de...
Je ne l'ai même pas.
She's always a woman. De Billy Joel.
She's always a woman. De Billy Joel. Bah ouais, c'est Paul Simon, Billy Joel, Cat Stevens. C'est ce que mon père écoutait, ce qu'on continue d'écouter avec mon frère Thomas, qui est musicien et amoureux de cette époque-là, de cette, pas cette pop, mais de cette folk des années 70. Je sens qu'il n'y a rien de plus beau.
Vous faites de la batterie ?
Oui.
Ah oui, c'est vrai.
Je tape partout. Je crois que c'est le seul instrument que j'ai fait. J'ai fait 6 ans de batterie. Mais bon, c'est un peu triste la batterie seule.
Non.
Donc j'ai arrêté. J'en ai refait pour les Serges.
Et la basse aussi pour les Serges.
Et la basse, oui, la basse. Le fait d'avoir fait de la batterie et de la guitare à dos m'a permis d'apprendre la basse plus vite.
Et du piano sur YouTube pour en fanfare.
Ouais, un peu de piano sur YouTube. Les doigtés sur en fanfare pour faire illusion.
Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de vieillard est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller, je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu.
Tout simplement Albert Camus, lisant L'étranger en avril 1954. Benjamin Laverne, je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs. Vous avez choisi des classiques, L'étranger de Camus, lu cet été, Les Misérables de Victor Hugo, puisque vous aimeriez réhabiliter ces grands classiques dont on se dit toujours qu'on les lira. Et...
c'est pas les réhabiliter du tout, c'est juste de faire part de sentiment de sentir un peu béat, un peu bête, de découvrir des chefs-d'œuvre sur le tard, mais parce que certains l'ont lu à l'école, moi pas, et c'est vrai que L'étranger, Les Misérables, mais comme La recherche du temps perdu ou Madame Bovary, en fait, parfois ça fait partie des grands chefs-d'œuvre. Si on les a pas étudiés à l'école, on se dira un jour je prendrai le pavé à la plage et puis un été je me le ferai. Et en fait, là j'ai eu l'occasion de lire L'étranger récemment, et puis Les Misérables aussi, parce qu'il y a 2 adaptations qui se font au cinéma. Alors je connais une des actrices qui est dans L'étranger, donc j'ai lu le roman, et puis je joue Thénardier dans la nouvelle adaptation des Misérables qui sortira dans un an, un peu plus. Et j'étais effaré, en fait, de me dire, mais oh là là, là là, c'est l'émotion du génie de ces auteurs, de le découvrir que maintenant, de me dire, mais mon Dieu, mais il faut faire ces listes, mais même les listes de chefs-d'œuvre, la liste de Scorsese, des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma. Il faut prendre les listes et il faut s'y coller.
Non, mais Scorsese,
et en fait, c'est d'encourager.
Tout ce qu'il recommande.
Oui, voilà, mais c'est en fait... C'est un peu triste de dire qu'il faut attendre une occasion pour lire des chefs-d'œuvre et être bouleversé, renversé par le génie d'Hugo dans Les Misérables. Et donc là, en fait, voilà, j'ai la fulgurance, la simplicité de l'écriture de Camus et puis le côté tellement énigmatique de ce roman, mais qui reste avec nous tout un été. C'est des grandes émotions, et donc j'encourage les gens à lire les classiques qu'ils n'ont pas lus.
Benjamin Laverne, on arrive presque au terme de cette émission et j'aimerais bien que vous nous disiez un petit mot de la série Des Vivants dans laquelle vous jouez.
Des Vivants, c'est une série, c'est une aventure assez exceptionnelle à laquelle j'ai participé. On a tourné il y a maintenant un an. C'est Jean-Xavier de Lestrade qui met en scène et qui écrit avec Antoine Lacomblaise. Et c'est une aventure très particulière parce que c'est aborder cette tragédie nationale et puis très intime aussi de chacun de nous. Ceux qui étaient au plus près, les victimes du Bataclan.
Du 13 novembre 2015.
13 novembre 2015. Comment raconter l'irracontable, l'horreur absolue, et comment en faire récit. Et donc, quel point de vue adopter, comment ne pas être dans le sensationnalisme, dans le pathos, comment arriver à parler de cet événement à l'approche de l'anniversaire des 10 ans. Et donc, oui, beaucoup d'appréhension, de se dire, mais est-ce que c'est une bonne idée? Que vont penser les premières victimes? Comment ne pas être dans... Comment arriver à raconter? Quelle dramaturgie adopter? Et en fait, Jean-Xavier de Lestrade et Antoine Lacomblaise, ils s'en sont emparés avec les producteurs, et ils en ont fait une aventure merveilleuse, puisque c'est remettre l'humain au centre de la déshumanisation totale, et de voir comment ce groupe, parce qu'on parle d'un groupe de survivants qui s'appelle les potages, contraction de potes et otages, qui sont 7 des 11 personnes qui étaient dans ce couloir, là où il y a eu cette prise d'otages en contact avec les terroristes, et la BRI qui est intervenue. Ils sont tous miraculés, les gens de la BRI et ses otages, et on raconte la vie de ce groupe avec des acteurs et actrices merveilleux, et donc c'est une expérience très bouleversante, très très bouleversante, et la série est magnifique.
Merci beaucoup Benjamin Laverne.
Ça sort à partir du 25 octobre.
Je vais le redire, ne vous inquiétez pas. Le mariage forcé, d'abord de Molière, adapté, mis en scène par Louis Arène, est au Théâtre du Vieux Colombier à Paris jusqu'au 2 novembre, puis en tournée dans toute la France. Date et lieu à retrouver sur le site de la Comédie Française. Oui. La série de Jean-Xavier de Lestrade, Des Vivants, sera diffusée sur France 2 à partir du 3 novembre et visible en avant-première dès le 27 octobre sur la plateforme France.tv. Et vous présenterez la 51e cérémonie des Césars le 27 février 2026 à l'Olympia, soirée qui sera retransmise sur Canal+. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, merci. Préparée par Céline Villegas et Franck Olivard, merci à vous, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Gaspard Guy Bourget. À demain. Thank you.